Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et il est 7h.
J'ai appris qu'au Stade de France, il y avait des doses qui étaient jetées. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre rendez-vous sur Doctolib. Et il y avait des rendez-vous sans forcément avoir l'âge requis ou de comorbidité.
Un vaccin coûte que coûte. De nombreux Français qui ne sont pas prioritaires arrivent tout de même à se faire vacciner. Ça n'est pas illégal. Dans le pays, la campagne va s'accélérer demain. Elle s'ouvrira officiellement à toutes les personnes de plus de 55 ans.
Paris-Lyon ou Paris-Bordeaux en avion, c'est bientôt terminé. Les députés ont voté hier soir à la mesure de la Convention climat.
Les obsèques du prince Philippe auront lieu samedi prochain à Windsor, lui dont la popularité ces dernières années avait été renforcée par une série télé.
Et le loto du patrimoine qui va permettre de sauver deux chapelles de la Roya, elles sont coupées du monde depuis les intempéries de l'automne dernier.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Qu'importe leur âge ou leur état de santé, certains Français, depuis plusieurs semaines, n'attendent qu'une chose, ils veulent se faire vacciner.
Et certains viennent gonfler les files d'attente devant les centres de vaccination. Ils sont souvent jeunes, ça n'est donc pas le public prioritaire, mais pourtant, on le sait peu, leur vaccination est autorisée. Reportage dans le centre installé au Stade de France de Pierre Herbulot.
Ils vous ont validé à l'entrée, etc.
D'accord.
Ce rire gêné, c'est celui de l'infirmière. En face d'elle, dans une tente blanche sous les gradins du Stade de France, Mélanie, 24 ans, sans profession à risque ni comorbidité.
J'ai l'impression que je vois le bout du tunnel, c'est incroyable, vraiment. Alors je me suis fait vacciner parce que j'ai appris qu'au Stade de France, il y avait des doses qui étaient jetées. Et donc je me suis dit que j'allais prendre rendez-vous sur Doctolib et il y avait des rendez-vous sans forcément avoir l'âge requis ou de comorbidité.
En réalité, ce n'est pas une histoire de doses jetées, mais d'annulation de rendez-vous en cascade. 500 ces deux derniers jours. Les critères ont donc été assouplis pour combler les trous. Alors n'allez pas dire à Rémi, 24 ans lui aussi, qu'il chippe la place d'un autre.
Je suis pas d'accord parce qu'au final cette place n'était pas prise. Donc je prends la place de personne. C'est une dose qui serait partie à la poubelle. Donc autant qu'elle me serve, pour moi je fais rien de mal. Quoi.
Des doses hors critères comme méthode anti-gaspi. Stéphane Casati, responsable de la Croix-Rouge.
Alors ça, c'est des choses qui se voient plus en fin de journée, effectivement, mais c'est toujours fait sous le contrôle des autorités pour que l'on puisse utiliser l'ensemble des doses.
Résultat, à l'extérieur du stade, une nouvelle file d'attente se forme. Parmi les nouveaux arrivants, personne n'a de rendez-vous, mais tous espèrent récupérer un vaccin qu'ils n'auraient pas trouvé preneur.
Un reportage de Pierre Herbulot au Stade de France. À ce jour, plus de 10 700 000 Français ont reçu une première dose.
Et voilà qui devrait permettre d'accélérer encore la campagne. Dès demain, la vaccination sera élargie au plus de 55 ans.
Plus de 55 ans sans comorbidité, c'est ce qu'annonce le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le journal du dimanche. Et c'est Anne-Laure Barret qui l'a interviewé.
La vaccination AstraZeneca va s'ouvrir à tous les plus de 55 ans et donc plus seulement aux personnes qui ont des maladies graves. Cela va aussi concerner les premières doses du vaccin de l'américain Johnson & Johnson qui vont arriver cette semaine. Le ministre de la Santé ajoute que la France vient de décider de permettre de réaliser la deuxième injection des vaccins ARN messagers de Pfizer, BioNTech et de Moderna. Donc, 6 semaines après la première injection, l'idée, c'est de gagner du temps et de multiplier les injections. Il estime que l'espacement des deux doses de vaccins ARN messagers devrait permettre de gagner 1,8 million d'injections durant la deuxième quinzaine du mois de mai.
Anne-Laure Barret du JDD, et ce chiffre ce matin, 5769, c'est le nombre de patients en réanimation. C'est le niveau le plus haut depuis un an.
Et oui, et on reparlera de la vaccination avec Agnès Pannier-Runacher. C'est elle qui est chargée de la logistique de la vaccination au gouvernement. Elle est l'invitée du Grand Rendez-vous d'Europe. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont en difficulté. On parle moins des associations qui souffrent également.
Oui, plusieurs milliers d'entre elles ont dû fermer l'an dernier. Un fonds de 30 millions d'euros leur a été débloqué au mois de janvier, mais peu savent qu'il existe. Maud Descamps.
On peut dire qu'aujourd'hui, mon emploi est sauvé.
Rosa est l'unique salariée de l'association culturelle Étincelle à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise. Avec une activité totalement à l'arrêt depuis près d'un an, l'association ne pouvait plus lui payer son salaire. Elle s'est donc tournée vers le fonds de solidarité.
J'ai reçu la notification de l'accord de la subvention mercredi soir, la somme de 5000 euros, qui donc nous permet d'envisager un peu plus sereinement les mois à venir. Donc c'était une très bonne nouvelle.
Pour le moment, 942 associations ont touché entre 5000 et 8000 euros d'aide, soit au total 10 millions d'euros distribués. Il en reste le double dans les caisses, mais beaucoup d'associations n'osent pas faire les démarches, regrette Denis de Menton, directeur général de France Active qui gère l'attribution des fonds.
Il y a des phénomènes d'autocensure pour les plus petites structures qui disent « voilà, j'ai un salarié, ça va être trop compliqué, le dossier va être complexe ». Donc on a encore un gros effort à faire pour faire connaître ce fonds et s'assurer que les structures qui en ont réellement besoin seront celles qui seront servies.
Les associations de moins de 10 salariés ont jusqu'au mois de juin pour faire leur demande sur le site urgence-ess.fr.
Les précisions de Maud Descamps du service économie d'Europe 1. C'est l'un des enjeux des mois qui viennent. Comment organiser la réouverture et la relance du pays? La question d'un pass sanitaire notamment est étudiée.
Et dans cette réflexion, pourrait-on imaginer un passeport valable partout dans le monde? Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Alexis, on évoque un Common Pass créé par une ONG.
Oui, le Commons Project, Paul Meyer en est le directeur et il explique la philosophie de cette initiative. Les individus doivent avoir un contrôle absolu sur leurs données de santé. Il ne doit pas y avoir de base de données centralisée. Alors ce pass utilise des logiciels libres, c'est-à-dire non commerciaux, et l'idée c'est de servir d'intermédiaire entre par exemple un voyageur et une compagnie aérienne. On vérifie si le résultat de votre test ou de votre vaccination respecte les règles et ça fonctionne avec un système de feu vert, feu rouge. Si c'est vert, c'est OK, vous pouvez voyager. Si c'est rouge, non. Cela veut dire que la seule information communiquée par exemple à la compagnie aérienne, c'est la couleur du feu. Aujourd'hui, le Common Pass est déjà utilisé par une dizaine de compagnies aériennes comme la Lufthansa et le projet a des ambitions mondiales. Avec la construction d'un réseau d'institutions et de sources fiables, l'idée c'est de créer une infrastructure de base pour rétablir la confiance et permettre la reprise des voyages à l'international. Des discussions sont en cours avec l'Union européenne. Paul Meyer qualifie d'ailleurs de très encourageant le projet de passeport vert que l'UE souhaite mettre en place cet été.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Vous restez avec nous, il est 7h06. L'info revient dans un instant avec des lignes intérieures supprimées, c'est la loi climat. Et puis la mort du prince Philippe, ses funérailles auront lieu samedi prochain. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
La suite du journal de Marguerite Lefebvre. La mesure avait déjà fait beaucoup parler au moment de son annonce par la Convention climat. Des lignes aériennes seront bientôt supprimées en France.
Oui, dès lors qu'une alternative en train existe en moins de 2h30. Ce qui veut dire que les Paris-Bordeaux ou les Paris-Lyon seront bientôt de l'histoire ancienne. Les députés ont voté hier soir, mais ça n'est pas suffisant selon Grégoire Frati, l'un des citoyens tirés au sort.
On avait proposé que ces trajets soient interdits quand une alternative en train existait à moins de 4 heures. Là, ce qui a été voté par les députés, c'est moins de 2h30. C'est une mesure presque symbolique parce qu'en fait, là où nous, ça pouvait concerner 20 à 30% du trafic aérien, là, ça va concerner de 1 à 5 lignes. Donc effectivement, ça n'aura pas un impact démesuré sur la réduction d'émissions gaz à effet de serre. En revanche, c'est un bon signal. Ça reste quand même une demi-victoire parce qu'on peut se dire que enfin, on arrive à se dire que les voyages en avion ne doivent pas être faits à tout bout de champ, que quand des alternatives en train existent, ben voilà, il faut les privilégier, il faut les mettre en avant.
L'un des membres de la Convention climat, joint par Laura Taouchanoff. Une cellule de crise interministérielle se tiendra demain pour évoquer les cultures détruites par le gel de ces derniers jours, annonce du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, hier soir sur Europe 1.
Au Royaume-Uni, les obsèques du prince Philippe auront donc lieu samedi prochain. Son petit-fils, le prince Harry, sera présent.
Mais pas son épouse Meghan, qui elle restera aux États-Unis. Ses funérailles à huis clos devraient en tout cas marquer le pays. Funérailles de celui que la série The Crown a remis sur le devant de la scène, Nicolas Caro.
Depuis 2016, The Crown pulvérise les records d'audience. C'est que la vraie vie des Windsor est en soi une série télé, un feuilleton vrai. Mais étrangement, la série ne s'ouvre pas sur le personnage principal, la reine. Non, dans l'ordre d'apparition, dans le tout premier épisode, c'est l'acteur Matt Smith, alias Philippe, qui ouvre le bal.
Philippe Mountbatten, je vous octroie les titres de baron de Greenwich, comte de Merioneth et duc d'Édimbourg.
Bien sûr, ensuite quand même, il cède la vedette à la reine, mais pour une fois, c'est lui qui a le bon rôle dans la série. Il est très présent, il est drôle, de bons conseils. Le choix de l'acteur lui-même n'est pas anodin. Matt Smith a incarné le Docteur Who, une série culte et célébrissime au Royaume-Uni. Ici, Philippe apparaît comme l'un des piliers de la monarchie et le plus fidèle sujet de Sa Majesté.
Chacun dans ce système est un outsider perdu. Solitaire, sans importance. À part la personne, la seule personne qui importe.
Nicolas Caro est dans cette série. On voit au combien les rapports sont compliqués entre le prince Charles et son père, le prince Philippe. À 7h30, nous entendrons cette petite séquence puisque le prince Charles est sorti de sa maison de Highgrove hier pour dire « My dear papa ». C'était sans doute un hommage très très émouvant qu'on a pu voir.
Et la série l'a montré également, l'une des passions du prince Philippe, c'était l'automobile. Il en est question tout le week-end à Rome.
Avec deux courses de formule électrique, ce sont les premières en Europe cette année. Deux courses que l'écurie DS a suivies depuis son quartier général de Versailles-Satory. Et c'est Axel May qui a pu se glisser dans la salle de contrôle.
Installés dans la salle de contrôle de Versailles-Satory, les ingénieurs écoutent à la radio les conversations codées de leurs deux pilotes qui sont en course à 1500 km de là, à Rome. Les ingénieurs ont le regard fixé sur leurs nombreux écrans, relevés chronométriques, classements, charges restantes des batteries. Tout est décortiqué et transmis à leurs collègues qui, dans le feu de l'action à Rome, n'ont pas le temps de tout gérer. Au passage, on regarde ce que font les concurrents. Thomas Gomis est le directeur technique de DS Performance.
Évidemment, nous on fait de l'espionnage, mais de l'espionnage autorisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infos qui arrivent via le flux télé, le flux radio. On les analyse aussi pour renseigner au maximum nos deux pilotes, pour modifier leur stratégie.
À côté de cette salle de contrôle à distance se trouve également à l'abri des regards le simulateur où Arthur Lehoucq prépare les courses.
On va dire c'est comme quand vous passez le permis de conduire. Vous avez un moniteur au début qui vous aide, etc. Moi, je suis entre guillemets le moniteur qui va leur donner les derniers petits conseils pour qu'ils aillent vraiment vite.
Et hier, c'est le Français Jean-Éric Vergne qui a offert à l'écurie de Formule électrique DS Chichita son premier succès de la saison.
Axel May en rugby. La Rochelle a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe hier. Exploit de La Rochelle, donc qualifié pour les demi-finales. Enfin, 18 sites ont été choisis cette année. Ils vont bénéficier du loto du patrimoine. C'est une opération portée par Stéphane Bern. 18 sites, dont deux chapelles des Alpes-Maritimes. Elles se trouvent dans la vallée de la Roya, ravagée à l'automne dernier. Reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Elles sont en plein centre du village. La première est de forme oblongue, ce qui est assez rarissime. Et la deuxième, elle a un clocher qui est penché.
Ces deux chapelles de pénitence, c'est le trésor de la brigue. Les rénover, rouvrir leurs portes, le maire de la commune, Daniel Albertini, en rêve depuis des années. Et ce loto du patrimoine est un coup de pouce bienvenu.
C'est l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros en principe. C'est quand même non négligeable sur un budget. Bon, aujourd'hui, on l'établit autour d'1 400 000 euros. Ça change pas mal de choses. Honnêtement, en cette période, on est bien demandeur de bonnes nouvelles. Ça en est une, donc on est content.
Et la nouvelle a vite fait le tour de la vallée. Laure tient un tabac presse et se réjouit de vendre ses tickets du loto du patrimoine.
Ça va gratter, ça va gratter. Ça fait du bien après tout ce qui nous est arrivé. Les gens, par solidarité, vont acheter les tickets de manière à ce que les bâtiments soient réparés.
Sauvegarder le patrimoine en péril, c'est assurer l'avenir pour cette habitante de la brigue.
S'il n'y a plus rien dans nos villages, plus de beauté à voir, le tourisme cet été, on n'en aura rien. Tout repose là-dessus, hein, sur les églises, les patrimoines. Faut qu'on passe trop dire les gens.
Faire revenir les touristes à la brigue et dans toute la vallée de la Roya, sinistrée mais toujours de toute beauté.
Un reportage dans la vallée de la Roya de notre correspondant Frédéric Michel.
Merci Marguerite, à tout à l'heure pour le journal de 8h avec notre invitée Sophie Tarlet, rédactrice en chef du Figaro étudiant, avec des réponses aux angoisses de nos jeunes.